Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous nous retrouverons donc dans Lectures en liberté pour la suite du roman de Alain Fournier, Le Grand Mône. Morne fête. Toute la chaleur du poêle était prise par la lessive et il faisait grand froid. Dans la cour tombait interminablement et mollement une petite pluie d'hiver. C'est là pourtant que dès 9 heures du matin, dévoré par l'ennui, je retrouvais le grand Mône. Par les barreaux du grand portail où nous appuyions silencieusement nos têtes, nous regardâmes au haut du bourg, sur les 4 routes, le cortège d'un enterrement venu du fond de la campagne. Le cercueil, amené par une charrette à bœufs, était déchargé et posé sur une dalle, au pied de la grande croix où le boucher avait aperçu naguère les sentinelles du bohémien. Où était-il maintenant, le jeune capitaine qui si bien menait l'abordage? Le curé et les chantres vinrent, comme c'était l'usage, au devant du cercueil posé là, et les tristes chants arrivaient jusqu'à nous. Ce serait, nous le savions, le seul spectacle de la journée, qui s'écoulerait tout entière comme une eau jaunie dans un caniveau. Et maintenant, dit Mône, soudain, je vais préparer mes bagages. Apprends-le, Sorel. J'ai écrit à ma mère jeudi dernier pour lui demander de finir mes études à Paris. C'est aujourd'hui que je pars. Il continuait à regarder vers le bourg, les mains appuyées au barreau, à la hauteur de sa tête. Inutile de demander si sa mère, qui était riche et lui passait toutes ses volontés, lui avait passé celle-là. Inutile aussi de demander pourquoi, soudainement, il désirait aller à Paris. Mais il y avait en lui certainement le regret et la crainte de quitter ce cher pays de Sainte-Agathe d'où il était parti pour son aventure. Quant à moi, je sentais monter une désolation violente que je n'avais pas sentie d'abord. « Pâques approche, » dit-il, pour m'expliquer avec un soupir. « Dès que tu l'auras trouvé là-bas, tu m'écriras, n'est-ce pas ?» demandai-je. « C'est promis, bien sûr. N'es-tu pas mon compagnon et mon frère ?» Et il me posa la main sur l'épaule. Peu à peu, je comprenais que c'était bien fini, puisqu'il voulait terminer ses études à Paris. Jamais plus je n'aurais avec moi mon grand camarade. Il y avait d'espoir pour nous réunir qu'en cette maison de Paris où devait se retrouver la trace de l'aventure perdue. Mais de voir Mône lui-même si triste, quel pauvre espoir c'était là pour moi. Mes parents furent avertis, M. Sorel se montra très étonné, mais se rendit bien vite aux raisons d'Augustin. Milly, femme d'intérieur, se désola surtout à la pensée que la mère de Mône verrait notre maison dans un désordre inaccoutumé. La malle, hélas, fut bientôt faite. Nous cherchâmes sous l'escalier ses souliers des dimanches, dans l'armoire un peu de linge, puis ses papiers et ses livres d'école, tout ce qu'un jeune homme de 18 ans possède au monde. À midi, Madame Mône arrivait avec sa voiture. Elle déjeuna au café Daniel en compagnie d'Augustin et l'emmena sans donner presque aucune explication dès que le cheval fut affainé et attelé. Sur le seuil, nous leur dîmes au revoir et la voiture disparut au tournant des 4 routes. Milly frotta ses souliers devant la porte et rentra dans la froide salle à manger, remettre en ordre ce qui avait été dérangé. Quant à moi, je me retrouvais pour la première fois depuis de longs mois seul en face d'une longue soirée de jeudi, avec l'impression que dans cette vieille voiture, mon adolescence venait de s'en aller pour toujours. De toute ma vie, je n'ai reçu que 3 lettres de Maune. Elles sont encore chez moi dans un tiroir de commode. Je retrouve chaque fois que je les relis la même tristesse que naguère. La première m'arriva dès le surlendemain de son départ. Mon cher François, aujourd'hui, dès mon arrivée à Paris, je suis allé devant la maison indiquée. Je n'ai rien vu. Il n'y avait personne. Il n'y aura jamais personne. La maison que disait Franz est un petit hôtel à un étage. La chambre de Mademoiselle de Galais doit être au premier. Les fenêtres du haut sont les plus cachées par les arbres, mais en passant sur le trottoir, on les voit très bien. Tous les rideaux sont fermés. Et il faudrait être fou pour espérer qu'un jour, entre ces rideaux tirés, le visage d'Yvonne de Galais puisse apparaître. C'est sur un boulevard. Il pleuvait un peu dans les arbres déjà verts. On entendait les cloches claires des tramways qui passaient indéfiniment. Pendant presque 2 heures, je me suis promené de long en large sous les fenêtres. Il y a un marchand de vin chez qui je me suis arrêté pour boire, de façon à n'être pas pris pour un bandit qui veut faire un mauvais coup. Puis j'ai repris ce guet sans espoir. La nuit est venue. Les fenêtres se sont allumées un peu partout, mais non, pas dans cette maison. Il n'y a certainement personne, et pourtant Pâques approche. Au moment où j'allais partir, une jeune fille ou une jeune femme, je ne sais pas, est venue s'asseoir sur un des bancs mouillés de pluie. Elle était vêtue de noir avec une petite collerette blanche. Lorsque je suis parti, elle était encore là, immobile, malgré le froid du soir, à attendre je ne sais quoi, je ne sais qui. Tu vois que Paris est plein de fous comme moi. Augustin. Le temps passa. Vainement, j'attendis un mot d'Augustin le lundi de Pâques et durant tous les jours qui suivirent, jours où il semble, tant ils sont calmes après la grande fièvre de Pâques, qu'il n'y ait plus qu'à attendre l'été. Juin ramena le temps des examens et une terrible chaleur dont la buée suffocante planait sur le pays sans qu'un souffle de vent la vînt dissiper. La nuit n'apportait aucune fraîcheur et par conséquent aucun répit à ce supplice. C'est durant cet insupportable mois de juin que je reçus la 2e lettre du grand Maune. Mon cher ami, cette fois, tout espoir est perdu. Je le sais depuis hier soir. La douleur, que je n'avais presque pas sentie tout de suite, monte depuis ce temps. Tous les soirs, j'allais m'asseoir sur ce banc, guettant, réfléchissant, espérant malgré tout. Hier, après dîner, la nuit était noire et étouffante. Des gens causaient sur le trottoir, sous les arbres. Au-dessus des noirs feuillages verdis par les lumières, les appartements des secondes et troisième étages étaient éclairés. Ça et là, une fenêtre que l'été avait ouverte toute grande. On voyait la lampe allumée sur la table, refoulant à peine autour d'elle la chaude obscurité de juin. On voyait presque jusqu'au fond de la pièce. Ah ! Si la fenêtre noire d'Yvonne de Galès était allumée aussi, j'aurais osé, je crois, monter l'escalier, frapper, entrer. La jeune fille de qui je t'ai parlé était encore là, attendant comme moi. Je pensais qu'elle devait connaître la maison, je l'interrogeai. Je sais, a-t-elle dit, qu'autrefois, dans cette maison, une jeune fille et son frère venaient passer les vacances. J'ai appris que le frère avait fui le château de ses parents sans qu'on puisse jamais le retrouver, et la jeune fille s'est mariée. C'est ce qui vous explique que l'appartement soit fermé. Je suis parti. Au bout de 10 pas, mes pieds butaient sur le trottoir et je manquais à tomber. La nuit, c'était la nuit dernière. Lorsqu'enfin les enfants et les femmes se sont tus dans les cours pour me laisser dormir, j'ai commencé d'entendre rouler les fiacres dans la rue. Ils ne passaient que de loin en loin. Mais quand l'un était passé malgré moi, j'attendais l'autre. Le grelot, les pas du cheval qui claquaient sur l'asphalte. Et cela répétait « C'est la ville déserte, ton amour perdu, la nuit interminable, l'été, la fièvre. Serel, mon ami, je suis dans une grande détresse. Augustin. » Lettre de peu de confidence, quoi qu'il y paraisse, Maun ne me disait ni pourquoi il était resté si longtemps silencieux, ni ce qu'il comptait faire maintenant. J'eus l'impression qu'il rompait avec moi parce que son aventure était finie, comme il rompait avec son passé. J'eus beau lui écrire, en effet, je ne reçus plus de réponse, un mot de félicitation seulement lorsque j'obtins mon brevet simple. En septembre, je sus par un camarade d'école qu'il était venu en vacances chez sa mère à la Ferté d'Anguillon. Mais nous dûmes cette année-là, invités par mon oncle Florentin du vieux Nançay, passer chez lui les vacances. Et Maun repartit pour Paris, sans que j'eusse pu le voir. À la rentrée, exactement vers la fin de novembre, tandis que je m'étais remis avec une morne ardeur à préparer le brevet supérieur dans l'espoir d'être nommé instituteur l'année suivante, sans passer par l'école normale de Bourges, je reçus la dernière des 3 lettres que j'ai jamais reçues d'Augustin. « Je passe encore sous cette fenêtre, » écrivait-il. « J'attends sans le moindre espoir, par folie. » À la fin de ces froids dimanches d'automne, au moment où il va faire nuit, je ne puis me décider à rentrer, à fermer les volets de ma chambre, sans être retourné là-bas, dans cette rue gelée. Je suis comme cette folle de Sainte-Agathe qui sortait à chaque minute sur le pas de la porte et regardait la main sur les yeux du côté de la gare pour voir si son fils, qui était mort, ne venait pas. Assis sur le banc, grelottant, misérable, je me plais à imaginer que quelqu'un va me prendre doucement par le bras. Je me retournerai, ce serait elle. Je me suis un peu attardé, dirait-elle simplement. Et toute peine et toute démence s'évanouissent. Nous entrons dans notre maison, ses fourrures sont toutes glacées, sa voilette mouillée, elle apporte avec elle le goût de brume du dehors, et tandis qu'elle s'approche du feu, je vois ses cheveux blonds givrés, son beau profil en dessin si doux penché vers la flamme. Hélas ! La vitre reste blanchie par le rideau qui est derrière, et la jeune fille du domaine perdue l'ouvrirait-elle ? Je n'ai maintenant plus rien à lui dire. Et ce fut un nouvel hiver, aussi mort que le précédent avait été vivant d'une mystérieuse vie. La place de l'église, sans bohémien, la cour de l'école, que les gamins désertaient à 4 heures, la salle de classe où j'étudiais seul et sans goût. En février, pour la première fois de l'hiver, la neige tomba, ensevelissant définitivement notre roman d'aventure de l'an passé, brouillant toute piste, effaçant les dernières traces. Et je m'efforçais, comme Maun me l'avait demandé dans sa lettre, de tout oublier.
Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin, ce soir je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, ce soir je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Cœur, ne t'emballe pas, fais comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. c'est pas non. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous mes mains, restez tranquille, c'est un chien qui nous revient de la ville. Mathilde est revenue. Et vous mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas. Mathilde est revenue. Vous mes mains, ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus. Mathilde est revenue. Vous mes mains, ne vous ouvrez pas, vous mes bras, ne vous tendez pas. Sacrée Mathilde, puisque te voilà. Jacques retourne en enfer, Mathilde m'est revenue. Ounia, apporte-nous du vin, celui des noces et des festins, Mathilde m'est revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de drap, Mathilde m'est revenue. Ami, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois, m'appelle Mathilde. Puisque te voilà, te voilà.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Après la pause musicale habituelle, nous revenons donc au roman de Alain Fournier, Le Grand Mône. Dans le temps de la musique, des choses se sont passées. Mône a disparu, puis le narrateur et lui se sont retrouvés. Et Mône épouse Yvonne de Galais. Les fiançailles ont duré 5 mois. Elles ont été paisibles, aussi paisibles que la première entrevue avait été mouvementée. Mône est venue très souvent aux Sablonnières, à bicyclette ou en voiture. Plus de 2 fois par semaine, cousant ou lisant près de la grande fenêtre qui donne sur la lande et les sapins, Mademoiselle de Galais a vu tout d'un coup sa haute silhouette rapide passer derrière le rideau, car il vient toujours par l'allée détournée qu'il a prise autrefois. Mais c'est la seule allusion tacite qu'il fasse au passé. Le bonheur semble avoir endormi son étrange tourment. De petits événements ont fait date pendant ces 5 calmes mois. On m'a nommé instituteur au hameau de Saint-Benoît-des-Champs. Saint-Benoît n'est pas un village. Ce sont des fermes disséminées à travers la campagne et la maison d'école est complètement isolée sur une côte au bord de la route. Je mène une vie bien solitaire. Mais en passant par les champs, il ne faut que 3 quarts d'heure de marche pour gagner les Sablonnières. Delouche est maintenant chez son oncle, qui est entrepreneur de maçonnerie au Vieux-Nançay. Ce sera bientôt lui le patron. Il vient souvent me voir. Mône, sur la prière de Mademoiselle de Galais, est maintenant très aimable avec lui. Et ceci explique comment nous sommes là, tous deux, à rôder vers 4 heures de l'après-midi, alors que les gens de la noce sont déjà tous repartis. Le mariage s'est fait à midi, avec le plus de silence possible, dans l'ancienne chapelle des Sablonnières qu'on n'a pas abattue et que les sapins cachent à moitié sur le versant de la colline prochaine. Après un déjeuner rapide, la mère de Mône, M. Serel, Émilie, Florentin et les autres sont remontés en voiture. Il n'est resté que Jasmin et moi. Nous errons à la lisière des bois qui sont derrière la maison des Sablonnières, au bord du grand terrain en friche, emplacement ancien du domaine aujourd'hui abattu. Sans vouloir l'avouer, et sans savoir pourquoi, nous sommes remplis d'inquiétude. En vain, nous essayons de distraire nos pensées et de tromper notre angoisse en nous montrant au cours de notre promenade errante les bauches des lièvres et les petits sillons de sable où les lapins ont gratté fraîchement, un col étendu, la trace d'un braconnier. Mais sans cesse nous revenons à ce bord du taillis d'où l'on découvre la maison silencieuse et fermée. Au bas de la grande croisée qui donne sur les sapins, il y a un balcon de bois envahi par les herbes folles que couche le vent. Une lueur, comme d'un feu allumé, se reflète sur les carreaux de la fenêtre. De temps à autre, une ombre passe. Tout autour, dans les champs environnants, dans le potager, dans la seule ferme qui reste des anciennes dépendances, silence et solitude. Les métayers sont partis au bourg pour fêter le bonheur de leur maître. De temps à autre, le vent chargé d'une buée qui est presque de la pluie nous mouille la figure et nous apporte la parole perdue d'un piano. Là-bas, dans la maison fermée, quelqu'un joue. Je m'arrête un instant pour écouter en silence. C'est d'abord comme une voix tremblante qui de très loin ose à peine chanter sa joie. C'est comme le rire d'une petite fille qui dans sa chambre a été chercher tous ses jouets et les répand devant son ami. Je pense aussi à la joie craintive encore d'une femme qui a été mettre une belle robe et qui vient la montrer et ne sait pas si elle plaira. Cet air que je ne connais pas, c'est aussi une prière, une supplication au bonheur de ne pas être trop cruel. Un salut est comme un agenouillement devant le bonheur. Je pense, ils sont heureux enfin. Moon est là-bas, près d'elle. Et savoir cela, en être sûr, suffit au contentement parfait du brave enfant que je suis. À ce moment, tout absorbé, le visage mouillé par le vent de la plaine, comme par l'embrun de la mer, je sens qu'on me touche l'épaule. « Écoute !» dit Jasmin tout bas. Je le regarde. Il me fait signe de ne pas bouger. Et lui-même, la tête inclinée, le sourcil froncé, il écoute. « Ouh ! Ouh !» Cette fois, j'ai entendu. C'est un signal. Un appel sur deux notes hautes et basses que j'ai déjà entendu jadis. Ah, je me souviens. C'est le cri du grand comédien lorsqu'il hélait son jeune compagnon à la grille de l'école. C'est l'appel à quoi Franz nous avait fait jurer de nous rendre, n'importe où et n'importe quand. Mais que demande-t-il ici, aujourd'hui, celui-là ? Cela vient de la grande sapinière à gauche, dis-je à mi-voix. C'est un braconnier, sans doute. Jasmin secoue la tête. Tu sais bien que non. Puis plus bas. Ils sont dans le pays tous les deux depuis ce matin. J'ai surpris Ganache à 11 heures en train de guetter dans un champ auprès de la chapelle. Il a détalé en m'apercevant. Ils sont venus de loin, peut-être en bicyclette, car il était couvert de boue jusqu'au milieu du dos. Mais que cherche-t-il ? Je n'en sais rien. Mais à coup sûr, il faut que nous les chassions. Il ne faut pas les laisser rôder aux alentours, ou bien toutes les folies vont recommencer. Je suis de cet avis, sans l'avouer. Le mieux, dis-je, serait de les joindre, de voir ce qu'ils veulent et de leur faire entendre raison. Lentement, silencieusement, nous nous glissons donc en nous baissant à travers le taillis jusqu'à la grande sapinière, d'où part à intervalles réguliers ce cri prolongé qui n'est pas en soi plus triste qu'autre chose mais qui nous semble à tous les deux de sinistre augure. Il est difficile dans cette partie du bois de sapin où le regard s'enfonce entre les troncs régulièrement plantés de surprendre quelqu'un et de s'avancer sans être vu. Nous n'essayons même pas. Je me poste à l'angle du bois. Jasmin va se placer à l'angle opposé, de façon à commander comme moi de l'extérieur deux des côtés du rectangle et à ne pas laisser fuir l'un des bohémiens sans le héler. Ces dispositions prises, je commence à jouer mon rôle d'éclaireur pacifique et j'appelle « Franz !»« Franz, ne craignez rien, c'est moi, Sorel, je voudrais vous parler. » Un instant de silence. Je vais me décider à crier, lorsque, au cœur même de la sapinière où mon regard n'atteint pas tout à fait, une voix commande. « Restez où vous êtes, il va venir vous trouver. » Peu à peu, entre les grands sapins que l'éloignement fait paraître serrés, je distingue la silhouette du jeune homme qui s'approche. Il paraît couvert de boue et mal vêtu. Des épingles de bicyclette serrent le bas de son pantalon, une vieille casquette à ancre est plantée sur ses cheveux trop longs. Je vois maintenant sa figure amaigrie. Il semble avoir pleuré. S'approchant de moi résolument, « Que voulez-vous ? » demande-t-il d'un air insolent. Et vous-même, Franz, que faites-vous ici? Pourquoi venez-vous troubler ceux qui sont heureux? Qu'avez-vous à demander? Dites-le. » Ainsi interrogé directement, il rougit un peu, balbutie, répond seulement « Je suis malheureux, moi. Je suis malheureux. » Puis la tête dans le bras, appuyé à un tronc d'arbre, il se prend à sangloter amèrement. Nous avons fait quelques pas dans la sapinière. L'endroit est parfaitement silencieux. Pas même la voix du vent que les grands sapins de la lisière arrêtent. Entre les troncs réguliers se répète et s'éteint le bruit des sanglots étouffés du jeune homme. J'attends que cette crise s'apaise et je dis en lui mettant la main sur l'épaule « Franz, vous viendrez avec moi ?» Je vous mènerai auprès d'eux, ils vous accueilleront comme un enfant perdu qu'on a retrouvé, et tout sera fini. » Mais il ne voulait rien entendre. D'une voix assourdie par les larmes, malheureux, entêté, colère, il reprenait « Ainsi, Mône ne s'occupe plus de moi. Pourquoi ne répond-il pas quand je l'appelle? Pourquoi ne tient-il pas sa promesse ?» « Voyons, Franz, répondis-je. Le temps des fantasmagories et des enfantillages est passé. Ne troublez pas avec des folies le bonheur de ceux que vous aimez, de votre sœur et d'Augustin Moon. Mais lui seul peut me sauver, vous le savez bien, lui seul est capable de retrouver la trace que je cherche. Voilà bientôt 3 ans que Ganache et moi nous battons toute la France sans résultat. Je n'avais plus confiance qu'en votre ami. Et voici qu'il ne répond plus. Il a retrouvé son amour, lui. Pourquoi maintenant ne pense-t-il pas à moi? Il faut qu'il se mette en route. Yvonne le laissera bien partir. Elle ne m'a jamais rien refusé. » Il me montrait un visage où dans la poussière et la boue, les larmes avaient tracé des sillons sales. Un visage de vieux gamin épuisé et battu. Ses yeux étaient cernés de taches de rousseur, son menton mal rasé, ses cheveux trop longs traînaient sur son col sale. Les mains dans les poches, il grelottait. Ce n'était plus le royal enfant en guenille des années passées. De cœur, sans doute, il était plus enfant que jamais, impérieux, fantasque et tout de suite désespéré. Mais cet enfantillage était pénible à supporter chez ce garçon, déjà légèrement vieilli. Naguère, il y avait en lui tant d'orgueilleuse jeunesse que toute folie au monde lui paraissait permise. À présent, on était d'abord tenté de le plaindre pour n'avoir pas réussi sa vie, puis de lui reprocher ce rôle absurde de jeune héros romantique où je le voyais s'entêter. Et enfin, je pensais, malgré moi, que notre beau Franz, aux belles amours, a avait dû se mettre à voler pour vivre, tout comme son compagnon Ganache. Tant d'orgueil avait abouti à cela. Et nous avons terminé pour ce soir et pour cette semaine la suite du roman de Alain Fournier, Le Grand Mône, que nous reprendrons la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.